Bonsoir tout le monde.
Bonsoir, bonsoir.
Il est 19h32, on est le 19 juillet, jeudi soir, et on écoute l'émission Feu de tout bois.
Tous les jeudis de 19h30 à 21h, on ne s'en lasse pas.
Quelle fidélité, toujours, toujours là, même en plein été, quand tout le monde est en vacances.
Ouais.
Et donc ce soir, on a avec nous dans le studio deux invités. On a Jérémy et Ashley qui sont là. Et avec Jérémy et Ashley, on va parler un peu de choses qui se passent de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique du Nord, aux États-Unis, en Californie précisément. Et on va parler du mouvement Occupy, dont vous avez sûrement entendu parler, vous qui nous écoutez, derrière vos petits postes de radio ou vos petits ordinateurs. Et puis ensuite, on écoutera également une interview qui vous est promise depuis très 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 longtemps. Interview qui a été faite à Grenoble et qui concerne un groupe de travail, un groupe de réflexion qui s'appelle la Fabrique du Futur et qui réfléchit sur des propositions économiques, des propositions de modèles économiques alternatifs au capitalisme. Et voilà, il y a des gens qui vont vous expliquer un peu plus en quoi consiste ce groupe. On a d'autres choses au programme, Adrien ?
Si on a le temps, on reparlera un petit peu de la catastrophe qui continue à Fukushima. Et c'est suite à ces désastreuses qu'on nous parle pas beaucoup ces derniers temps.
Mais il paraît qu'il y a eu une grosse manifestation au Japon il y a pas longtemps.
Il y en a eu plusieurs, ouais. Ouais, ouais, mais...
ça a même percé sur Internet, dans les news. Bon, ben à tout de suite pour tout ça alors.
Thank you.
Il fait chaud, dit et rempli de nombreux et nombreuses touristes. Et nous venons d'entendre sur Erdiwa deux morceaux de musique du compositeur et musicien René Aubry. Voilà. Alors maintenant, on va commencer à parler un peu de notre grand sujet du soir. puisqu'on a deux personnes qui peuvent nous raconter un peu en direct, puisqu'ils ont vu, ils ont participé à des actions ou des choses qui se sont passées de ce mouvement qui s'est appelé Occupy aux États-Unis. Oui. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de nous raconter là-dessus ?
Eh bien, moi, personnellement, j'étais à Oakland, en Californie, qui est une ville voisine de San Francisco, quand le mouvement a commencé. Et c'est un mouvement qui a commencé à New York, et il est beaucoup connu sous le nom de Occupy Wall Street, parce qu'au tout début, ce sont des personnes qui ont décidé d'occuper la place publique à Wall Street, donc devant la bourse états-unienne, dans l'objectif de fermer la bourse, avec toutes sortes de demandes. Et ils se sont bien gardés au début d'avoir une liste de revendications. Ils ont dit vraiment, on veut changer radicalement la manière de faire les choses, et on veut vraiment tendre vers la fin de ce système financier. Et ce mouvement, il a commencé là-bas. Il a très vite été déménagé à New York pour s'installer dans un parc voisin.
Tu veux dire, il a été évacué par la police ?
Voilà, il a été évacué par la police. Ils se sont, dès le premier ou le deuxième jour, ils ont dû partir pour s'installer dans un parc qui s'appelle The Cuddy Park. Et en même temps, ce qui s'est passé, c'est que dans la même semaine, à travers les États-Unis, dans beaucoup de grandes villes, il y a eu d'autres Occupy, comme Occupy Oakland, Occupy San Francisco, Occupy
Chicago.
Et vraiment, au bout de quelques semaines, il y en avait partout. Donc, le pays en entier était recouvert de campements, de gens qui vivaient en tente, dans des places publiques à haute visibilité, donc devant la bourse, devant la Banque fédérale, devant d'autres banques. À Auckland, c'était devant la mairie. Et c'était aussi, même dans les plus petites villes, des fois, c'était des Occupy de 2 ou 3 personnes, mais qui avaient une présence continue la plupart du temps.
Et donc, c'est un peu comme une sorte d'éclosion, on peut dire, quand il y a un mouvement qui se produit comme ça, qui inspire des gens à plein d'endroits en même temps et qui leur donne envie de faire une action similaire, c'est qu'il doit y avoir des bonnes raisons de faire ça, en fait.
Oui, il y avait plein de bonnes raisons. En fait, toutes les raisons que les gens avaient d'être en colère ont nourri ce mouvement, quoi. Donc, tout le monde était là pour des raisons différentes, on avait l'impression, et en même temps, et c'était un grand lieu de dialogue où on parlait toute la journée, en fait, de ce qui ne va pas.
C'était totalement spontané, en fait. C'est tout ce qui s'est passé dans les différentes villes où il y avait quelque chose à la base de tout ça, un appel, quelque chose qui rassemblait tous ces différents mouvements d'occupation.
Eh bien, à ma connaissance, c'est le magazine canadien Adbusters qui a lancé le premier appel durant l'été 2011 pour aller occuper seulement Wall Street, à ma connaissance. Mais je pense qu'en parallèle, des gens se sont dit « Mais c'est une excellente idée, on va faire ça chez nous. » Alors, je ne sais pas exactement combien de temps ça a pris pour les gens de se dire « Ah, on va faire ça chez nous, de ville en ville. » Mais je pense que derrière, quand je vois la vitesse à laquelle les campements sont survenus, je pense qu'il y avait, de la logistique et de la préparation derrière. Donc à Auckland, par exemple, et à San Francisco, en 2 jours, il y avait des centaines de personnes. T'es d'accord, Ashley?
Oui.
Il y avait beaucoup de monde dès le début. Et donc, ça me fait penser qu'il y avait quand même beaucoup de prévisions derrière.
Ou des gens qui étaient déjà organisés, en fait, qui avaient peut-être l'habitude simplement de s'organiser déjà, qui faisaient peut-être des food not bombs ou qui avaient l'habitude de faire des repas de rue ou des formes d'organisation, d'assemblée pour décider des choses et donc qui étaient prêts finalement.
Oui. Et il y avait vraiment ce sentiment que c'était le mouvement qu'on attendait depuis des années. Surtout chez ces gens-là qui ont l'habitude d'organiser un peu, comme on dit, grassroots, et de, comme tu dis, de distribuer la nourriture gratuite avec Food Not Bombs, d'organiser un peu des forums sociaux, des trucs comme ça. Donc, c'est sûr que là, on a tous pu mettre en œuvre toutes ces méthodes, toutes ces théories, toutes ces stratégies qu'on avait pratiquées un peu plus en privé depuis des années, quoi.
Et c'est quel lieu qui a été occupé à Auckland, alors ?
À Auckland, c'était le centre-ville devant la mairie, une place un peu commerciale, mais toute l'année, en fait, était déserte et est redevenue déserte. C'était une grande place avec un gazon que personne même ne traversait.
Alors, petite précision technique, donc c'est que parmi nos deux invités, il y a Jérémy qui parle bien français et puis Ashley qui est américaine d'origine. Donc, peut-être on ne va pas parler trop vite ou voir si ça va pour que tu puisses comprendre ce qu'on dit et éventuellement toi aussi dire quelque chose.
Ouais, merci.
Est-ce que tu as envie déjà de dire des choses maintenant sur ce qu'on a dit jusqu'à présent ?
Non.
Non, ok. Non. D'accord.
Et du coup, c'est un mouvement d'occupation de place. On a eu ça, on en a plus entendu parler ici par rapport à ce qui s'est passé en Espagne en printemps dernier. Est-ce qu'il y avait une référence pour vous à l'Espagne ou à la Grèce, enfin d'autres lieux où il y avait des occupations de place en Europe ?
Ou même dans les pays arabes aussi.
Ou même dans les pays arabes aussi, ouais.
Mais on a beaucoup parlé des occupations des pays arabes, un peu moins des occupations européennes. Mais c'était intéressant parce que moi, j'ai rencontré une Espagnole là-bas à Occupy Auckland. Et c'est là que j'avais appris vraiment du mouvement des indignés, quoi. J'étais même pas au courant.
Tu veux dire que cette information n'avait pas vraiment traversé l'Atlantique et n'était pas du tout relayée par les... les médias ou les sources d'information là-bas.
Ouais, c'est un peu ça. Et je suis certain que dans la presse alternative, Democracy Now, Indie Media, je pense que les gens devaient en parler. Mais même à Occupy, c'est que à travers cette femme espagnole que j'ai pu entendre, ah, nous en Espagne, on a fait comme ça. Nous, en Espagne, on a eu les mêmes problèmes que vous et on a trouvé telle ou telle solution et tout ça. Mais en général, non, il n'y avait pas vraiment cette référence.
Donc c'est plutôt par un lien direct finalement que le lien il a été fait, quoi. Plus que par les canaux d'information impersonnels, on va dire, c'est par vraiment des liens physiques de personnes finalement qui se sont déplacés que les liens ils ont pu être faits.
Oui, et je pense que c'était la magie du mouvement. C'était que pour une fois, on se retrouvait vraiment physiquement et avec le temps vraiment d'organiser des choses, de se parler, de faire des choses ensemble, quoi. Mais après, ça, c'est la perspective de quelqu'un qui... Moi, j'ai vécu dans le camp, donc j'étais là. Et je sais qu'en même temps, c'était sur Internet. Et les gens en parlaient sur Internet. Donc, je suis sûr qu'il s'est passé beaucoup de choses à ce niveau aussi.
Et qu'est-ce qui se passait alors sur cette place Je ne sais pas si tu veux aussi.
Mais tu veux parler, Ashley?
Non, je n'ai pas compris.
Alors, la question, the question is, was it a direct, so, was it a direct link of person to person that made this Occupy movement, or did it also happen, like, through the media and through, you know, social networking or things like that? And I said that for me, it seemed like that was what was revolutionary about the movement. What was so new was that there was so much like person-to-person interaction, but there was a lot going on the internet as well that I'm not as connected to.
Ouais. Eh ben, je crois pour moi, l'internet était très influentiel parce que j'habite à Oakland, mais je n'étais pas habitée dans la place de Occupy. Et alors j'étais chez moi et toujours sur l'internet. Et je crois que les personnes qui parlent regarde ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe là, ce qui se passe là. Et c'était pour moi, je crois que ça a fait une grande différence. Parce qu'on sait que dans les autres pays, les choses passent. Et pour moi, et pour mes amis, et pour tout le monde, ça donne beaucoup d'espoir.
Donc tu veux dire que ça a vraiment influencé et déclenché cette mise en mouvement, cette action des gens, de savoir ce qui se passait ailleurs.
Ouais.
Et du coup, je disais tout à l'heure, je vous demandais ce qui s'était passé sur cette place. Qu'est-ce que vous occupiez, qu'est-ce que vous faisiez du coup pendant, je ne sais pas combien de temps a duré l'occupation à Auckland, par exemple, mais qu'est-ce qui s'est passé?
So what happened at the occupation, at Occupy?
Go ahead.
Ben moi, je vais juste raconter la manière dont j'ai commencé à participer à ça. Je suis allé d'abord à Occupy San Francisco. Et pour moi, c'était un peu nouveau. On m'avait dit qu'il y avait une manif permanente qui se mettait en place. Je me suis dit, je vais aller voir. Et là, j'ai vu des gens dans la rue avec des pancartes. Ils avaient l'air un peu clochards, vraiment mal en point et tout. Et je me suis dit, c'est ça, Occupy. Et puis, j'ai essayé de parler aux gens. Ils m'ont pas trop répondu, il n'y avait pas vraiment d'accueil public et tout. Et puis, mais j'ai insisté, je suis resté là, j'ai dit ok, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, finalement, je suis resté toute la nuit. Et j'ai décidé de revenir le lendemain et d'y camper, d'aider avec la bouffe et tout. Et donc ça, c'était vraiment le premier truc, c'est juste des gens qui vivent là. Et c'était en premier toutes les populations un peu marginalisées. À San Francisco, c'était les jeunes qui voyagent, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent à la rue et qui voyagent de ville en ville aux États-Unis. À Oakland, c'était plutôt les sans-abri de la ville. Donc, ces gens-là avaient des tentes. Quand la police le permettait, des bâches pour se protéger, des structures un peu plus permanentes, et étaient nourris toute la journée. Donc, il y avait constamment une cuisine qui tournait avec les bénévoles et tout ça. Et ensuite, à côté de ça, on a installé des bibliothèques, des infokiosques avec des zines, des livres. Il y avait des ateliers où on parlait de différentes formes d'oppression, où on parlait du racisme, du sexisme, du système financier, etc. etc. On organisait souvent des manifs, donc je dirais peut-être toutes les semaines, il y avait une manif qui partait, qui faisait le tour du quartier. Il y avait une radio qui tournait en permanence. Il y avait aussi une live stream et une radio internet, je pense. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Ashley?
Aussi, je crois que c'est important de parler de General Assembly.
Oui, voilà.
Alors,
ouais.
Si tu peux parler de ça, c'est bon.
Et donc, peut-être le truc le plus important, c'était tous les soirs, on avait une assemblée générale. Qui était voulu vraiment démocratique, anti-autoritaire, tout ça, où chacun avait le même droit de parole et où on faisait... ça marchait souvent sous la forme de propositions. Donc, pour donner de la direction à notre campement, à notre mouvement, il y avait une proposition. Bon, par exemple, est-ce qu'on veut faire une manif samedi? Alors, on en parlait, il y avait les arguments pour, les arguments contre, et ensuite un vote. Et on essayait de pratiquer le vote au consensus, qui se pratique beaucoup, en fait, dans ce genre de communauté aux États-Unis, où il faut vraiment une grande majorité pour que quelque chose passe. S'il y a, je pense que c'est 5% de désaccord, quelque chose ne passe pas. Donc, on passait beaucoup de temps sur les propositions pour que tout le monde soit d'accord. Mais qu'est-ce qu'on discutait? On proposait des statements of support. Ça s'est beaucoup passé. Donc, est-ce qu'on soutient la lutte de tel mouvement indigène, par exemple? Est-ce qu'on soutient la lutte de tel mouvement de travailleurs, de tel syndicat? On parlait de ça. De quoi on parlait d'autre dans l'Assemblée générale? Quelles sont les autres propositions qui sont passées?
C'était vraiment, je crois, un endroit pour décider ce qu'on va faire comme communauté, comme manifestation, des choses comme ça. C'était, pour moi, ça, c'était les seules choses que...
Ouais.
Ouais.
But were there other proposals? What kinds of proposals would go up at General Assembly? I mentioned, like, protests and, like, statements of support, but I know there was other stuff that I'm forgetting.
Like... Should we move camp? What?
Ah oui. Oui, par exemple, quand. Donc, le problème de la question de la police s'est fait ressentir très, très vite. Et, à un moment, par exemple, on a décidé ensemble qu'on n'allait pas laisser la police mettre les pieds dans notre campement. Pour ça, Occupy Oakland, je pense, était unique à travers les États-Unis. Parce que tous les autres campements. La police passait de temps en temps, leur faisait faire descendre des trucs, peut-être même arrêter des gens, faisait bien sentir que c'était chez eux et ils n'allaient pas laisser faire n'importe quoi. Nous, pour plein de facteurs différents, on a réussi à créer un espace où la police, les flics n'étaient pas les bienvenus. Et à un moment, des des policiers sont arrivés sur la place et les gens les ont fait sortir en criant, quoi. Et on a vu des flics aussi arriver parce que quelqu'un était blessé, l'ambulance est venue, la loi dit que quand l'ambulance est là, la police est là. Et c'était vraiment un climat super antagoniste où tout le monde leur hurlait de partir et ils sont partis, mais il se passait vraiment quelque chose, il y avait quelque chose de très fort. Et à un moment, on a commencé à recevoir des lettres de la ville, des notices d'éviction, ça se dit en français ?
D'évacuation, d'expulsion.
Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose dont on a discuté à l'Assemblée Générale. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on part ? Est-ce qu'on se soumet à leurs conditions ? On nettoie ? On les invite à venir ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, on a décidé qu'on n'allait pas partir, qu'il fallait nous expulser par la force s'ils allaient nous faire partir. Et c'est ce qui est arrivé. Donc un jour la police est arrivée, tout le monde se demandait ok, quand est-ce qu'ils vont venir, qu'est-ce qui va se passer. Et donc on avait un système de sécurité avec des gens qui étaient en permanence, faisaient le tour du camp, étaient positionnés à des points un peu stratégiques pour voir arriver la police et des walkie-talkies et un système d'alerte. Quand la police vient, on sonne l'alerte, tout le monde se lève, on essaie de les bloquer et tout ça, on se tient les bras. Et un jour, moi j'étais pas là, mais un jour à 5h du matin, ils sont arrivés et puis il y avait je pense 600 policemen in riot gear, 600 CRS en genre armé jusqu'aux dents avec casque, bouclier gaz lacrymogène, tout ça. Donc ça a été super violent. Il y a un homme qui s'appelle Scott Olsen qui était un ex-soldat américain qui s'est pris une canisse de gaz lacrymogène dans la tête, donc il était très gravement blessé. Ça a fait beaucoup de bruit, mais le camp a été évacué.
Il y avait combien de personnes alors dans le camp, à peu près ?
How many people would you say were in the camp at that point ?
Je sais pas.
Maybe 300, 4.
Deux, 200, 300.
People sleeping there ? Ouais. 200, 300.
Donc le double de policiers par rapport au nombre de gens qu'il y avait sur place.
Oui, et puis surtout beaucoup plus armés, quoi. Ouais. It was 500 or 600 cops, right ? Yeah. Enfin, il y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Mais le lendemain, ils ont appelé une réunion manifestation d'urgence un peu plus loin dans la ville d'Auckland. Et il y avait tellement de personnes qui se sont pointées à cette réunion qu'ils ont dit on est assez pour reprendre la place. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont repris, ils ont réinvesti les lieux, ils ont remonté des tentes, ils ont refabriqué un infokiosque, un espace pour les ateliers, ils ont réinstallé la radio. Et ça, c'était vraiment une cuisine. Ça, ouais, c'était vraiment émouvant, quoi.
C'est vraiment similaire à ce qui s'est passé en Espagne, finalement, hein, puisque... Enfin, moi, j'ai le souvenir que donc, ce mouvement qui a démarré début mai, je pense que c'était le 18 mai 2011 en Espagne. Donc...
Le 15.
Le 15, voilà, d'occupation des places. Il y a eu un peu ce même phénomène où, en fait, la police, je pense à Barcelone, a évacué le camp. Et puis, les gens ont décidé de réoccuper la place et ça a renforcé le mouvement, en fait. Donc, finalement, c'est un peu des fois qui tout double, quoi. La répression, soit ça peut abattre les gens, les décourager, parce que quand on se fait détruire son matériel, que des gens se font blesser, arrêter, etc., ça peut décourager les gens. Mais là, on a senti en Espagne, et dans ce que tu racontes, c'est assez proche, qu'il y avait une telle force populaire, finalement, de volonté d'être là et de ne pas se laisser faire, que eh ben, finalement, cette répression, elle a renforcé la contestation, quoi.
Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé après en Espagne ? Est-ce qu'ils ont fini par être
Moi, j'ai pas vraiment le souvenir de comment le mouvement s'est arrêté, parce que ça a duré assez longtemps, cette occupation.
En tout cas, à Madrid, ils sont à la Plaza del Sol, ils se sont fait expulser. Et par contre, il y a eu plein d'assemblées de quartiers qui ont continué, et je pense qu'ils continuent encore aujourd'hui à vivre, quoi. Mmh. Donc, ils ont abandonné un terrain pour mieux en gagner d'autres, finalement, quoi.
Ils se sont délocalisés, ils n'ont plus de lieux permanent, quoi.
Ouais.
Ou de lieux d'occupation.
En tout cas, oui, en Espagne, a priori, ce que j'ai compris, c'est que ce mouvement, il continue, quoi. En fait, il y a eu comme une sorte d'éclosion de quelque chose, d'une force. Et moi, je connais quelqu'un qui est au Pays Basque et qui faisait des études à Grenoble et qui est retourné là-bas parce qu'il disait il se passe quelque chose de très puissant là-bas et moi, je veux être là-bas et je veux participer à ce qui se passe, en fait. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure, finalement, ce mouvement, il porte en lui quand même quelque chose de l'ordre d'une proposition, quoi, d'organisation différente en dehors de la contestation. Mais moi, ce que j'ai compris aux États-Unis dans ce qui s'est passé, dans ce mouvement Occupy, mais même plus largement, c'est qu'en gros, depuis la crise de 2008, la crise des subprimes, qui a mis des millions de gens à la rue, qui a mis plein de gens dans des très grandes difficultés économiques, eh ben, en fait, il y a comme quelque chose qui s'est passé, que les gens se sont rendus compte que même sans argent, on pouvait vivre, en fait. Mmh. Et que, voilà, on a entendu parler des potagers urbains, là, c'est la ville de Détroit, je pense, où... Mmh. Voilà, il y a un chômage très très massif et du coup les gens se mettent à cultiver des légumes pour manger, les gens se mettent à occuper des maisons qui ont été expulsées parce que les gens ne pouvaient plus rembourser les emprunts et à vivre dedans et à s'organiser. Même je pense au niveau des soins médicaux ou des soins en général, il y a aussi des gens qui s'organisent hors finalement du système, hors de l'argent, hors des échanges marchands et qui arrivent à prouver par le fait qu'on peut vivre sans argent et hors du système capitaliste et qu'on meurt pas parce que ce système-là il s'arrête un petit peu.
Ouais. T'as quelque chose à dire, Ashley ?
Non.
Oui, c'était un peu, ça faisait partie de la beauté de Occupy, de voir la solidarité qui a eu lieu là-bas et les gens qui vivaient dans tente et qui étaient très heureux de le faire au milieu d'une ville, qui mangeaient ensemble, qui s'occupaient un peu de leur lieu de vie commun, de notre lieu de vie commun. Et comme je te l'ai dit avant, c'était beaucoup de gens qui vivaient déjà à la rue. Mais pour une fois, ils avaient un espace, c'était devenu une communauté...
Choisie.
Oui. Oui, et un peu plus stable aussi. Ils ont eu le privilège de pouvoir rester à un endroit, de ne pas être obligés de se cacher déjà ou de déménager tous les soirs. Et ça, c'était vrai pour les gosses des rues comme pour les SDF. Et ce que ça a fait aussi, c'est que ça a amené l'attention au nombre de gens qui vivaient déjà comme ça aux États-Unis. Mais en se faufilant, tu vois, entre les failles du système. Et là, pour une fois, c'est là-bas, on va plus se faufiler, on va plus se cacher, on va se mettre au milieu où tout le monde peut nous voir. Et c'était incroyable combien il y a de gens qui vivent déjà comme ça, quoi, dans le système D, sans argent, tout ça. Mais bon, c'est extrêmement difficile. C'était extrêmement difficile, même quand on n'avait pas de problème de police, même quand on était là, qu'il n'y avait pas la question de est-ce qu'on va pouvoir dormir dans des tentes ou se protéger de la pluie et de la neige, c'était quand même des conditions précaires. Les gens manquaient de sommeil, la bouffe n'était pas toujours excellente, et il y avait beaucoup de personnes qui avaient déjà des difficultés de santé mentale, donc tu sais, t'étais... Les gens qui vivent à la rue, quoi. On a eu à gérer les problèmes de violence, les problèmes d'alcoolisme, de drogue, tout ça. Donc on réclame quand même quelque chose de mieux.
Moi, ça a eu le mérite de porter à nu un peu tous les problèmes que la société américaine veut bien cacher, enfin préfère cacher plutôt en général, quoi. Enfin, il y a aussi... Moi, j'ai lu une petite brochure là de Charles Reeve qui s'appelle Occupy, cette agaçante interruption du business as usual, pardon. Et il parle un peu aussi de la question des immigrés qui est revenue un peu aussi dans ses occupations et qui en général est aussi plutôt mis de côté, quoi.
He's talking in his brochure that he just mentioned, there's also the question of immigrants that have been pushed aside and that people don't really think about or talk about in the media.
So he's
like
wondering
participating in the movement, or?
Well, he's wondering. Et qu'est-ce qu'elle dit cette brochure?
Il parle du fait que pour une fois, qu'il y avait une solidarité, un peu ce que tu expliquais, une solidarité qui se créait entre les travailleurs précaires, les immigrés, qu'il y avait eu des actions de solidarité aussi avec des immigrés. Il y avait eu des actions de solidarité donc avec des immigrés et que c'est quelque chose qui était assez rarement vu aux États-Unis, ce genre d'action et de solidarité, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
There were actions in support of immigrants that, and this is something that had not, that had rarely been seen.
Je suis d'accord. Et je crois que ça. Je vais parler en anglais. Mm-hmm. Il va traduire.
I think it points to one of the difficulties of the movement.
Ça indique une des difficultés du mouvement.
Because the movement became so multifaceted.
Parce que le mouvement est devenu tellement multifaceté.
À plein de facettes.
Ouais. Tellement d'aspects différents, quoi.
And that was part of the beauty of the movement, and part of the difficulty of the movement is that we had different groups coming together.
Ce qui faisait à la fois la beauté et la difficulté du mouvement, c'est qu'il y avait tellement de groupes différents qui se rassemblaient.
And also, because of that, in the popular media, there was a sense that the movement wasn't organized or didn't have one purpose.
Et pour ça, dans les médias, the mass media, ouais. les médias grand public, il y avait ce sentiment qu'il n'y avait pas de il y avait pas vraiment de cohérence au mouvement ou de centre, quoi.
Because maybe during some of the like during a demonstration there would be an immigrant group would be in the front, or maybe it would be a food justice group, or then maybe it would be a healthcare group, or maybe it would be so.
Parce que dans une manif, n'importe quelle manif, il pourrait y avoir soit un groupe immigrant, soit un groupe de justice par rapport à... Food Justice Group, c'est un mouvement qui existe aux États-Unis maintenant, fait juste de distribution de la nourriture. Tel ou tel groupe pouvait avoir l'air d'être à la tête.
And I think for a lot of people in the movement, they're all... I mean, they're interlocking systems of oppression.
Ouais.
But for people outside of the movement, it's hard to understand that.
Que pour beaucoup de personnes qui sont dans le mouvement, qui sont impliquées dans ces choses, tous ces systèmes d'oppression sont reliés. Tous ces problèmes sont reliés. Alors que pour les gens qui voient ça de l'extérieur, ça ne l'est pas forcément.
Moi, j'ai envie de poser une autre question que tu peux peut-être traduire, qui est en lien avec ce que disait Adrien sur la question des immigrants. J'imagine en Californie, il doit y avoir pas mal d'immigrants mexicains. Et au Mexique, il y a beaucoup de mouvements sociaux assez puissants, au Chiapas, il y a eu la commune de Oaxaca, il y a eu le mouvement contre l'aéroport à Atenco. Enfin, il y a beaucoup de mouvements populaires assez puissants, justement, qui s'opposent à la mainmise de l'État, à la mainmise des grandes multinationales sur les territoires, sur la vie des gens. Et est-ce qu'il y a des liens? Est-ce que ces mouvements-là, ils sont bien connus aux États-Unis, ou en tout cas là où vous êtes, en Californie? Et est-ce qu'il y a vraiment ou pas des liens entre ces groupes, ces mouvements, et des gens qui essayent de faire des choses là où vous êtes?
So, she's saying that in California there's a lot of Mexican immigrants, and she's and also that Mexico has a lot of social movements, resistance movements, like in the Chiapas, for example. And she's wondering if that's something that people talk about in California, and if there was some link between some of the movements in Mexico and our movement in California.
Mm. Um, Je crois que c'est, en fait, c'est vraiment triste, mais je ne crois pas que beaucoup de personnes qui habitent en Californie, en Oakland, dans mon cercle, mes amis, parlent beaucoup de ce qui se passe en Mexique. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de immigrants, on dit, là, en San Francisco et à Oakland, et qu'il y avait des groupes très forts, là, des immigrants qui parlent espagnol, dans le General Assembly quand même, qui parle espagnol et qui traduit. Il y a une personne qui traduit et il y avait toujours une personne qui, si la personne ne parle pas anglais mais parle espagnol, il y avait toujours une personne là qui peut traduire, toujours. Alors, je crois que c'était bon, c'était pas parfait, mais c'était bon.
On fait une petite pause musicale et on conclura après, non ? C'est ça ? Allez.
On t'entend pas, Adrien.
Je me suis mal mis mon micro. Je ne suis pas mis mon micro.
Voilà,
j'ai mis le micro de tous les autres et pas le mien. Et on va poursuivre et finir avec deux personnes qui sont venues nous parler du mouvement Occupy, notamment à Auckland.
On peut redire donc qu'on est dans l'émission Feu de Tout Bois parce qu'on ne l'a point entendu.
Oui, parce qu'on ne m'a pas entendu, c'est vrai. On est toujours sur Feu de Tout Bois, donc.
Sur RDWA.
21h. Et vous vouliez parler de certaines choses qu'on n'avait pas pu évoquer jusque-là, non ?
Ben moi, je voudrais revenir sur la question de la répression et raconter un peu la fin de l'histoire de Occupy Auckland, notamment. Parce que tu as dit que la répression, en fait, elle a fait un peu grandir le mouvement. Ce qui était vrai pendant un moment, les gens se sont dit on va pas se laisser faire, on revient et tout. Et comme j'ai dit, c'était vraiment magique de voir à quelle vitesse, à quelle force les gens se sont relevés après avoir été brutalement expulsés, tabassés un peu. J'étais pas là, je connais pas les détails. Mais ce que j'ai pas dit, c'est que la police est revenue une ou deux semaines après, c'est ça, Ashley ?
Ouais.
Et là, ils sont venus encore plus fort, des centaines, armés jusqu'aux dents. Et là, ils ont expulsé les gens pour de bon. Est-ce que tu te souviens, Ashley, de un peu les détails sanglants de la deuxième expulsion?
You remember the graphic details of the second expulsion? Was it the first?
Il y avait plus de deux, mais parce que on a déménagé en un autre endroit après le deuxième, à la première, je crois.
Snowpark.
En 19th and Telegraph.
Ah oui, alors ça, c'est encore un truc. Ouais.
Ouais. Mais je crois que la grande chose est que les flics viennent et en fait, maintenant, il n'y a pas de camp.
Ouais, ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus une deuxième fois. Ils sont arrivés par la force, ils ont viré tout le monde, ils ont cassé les tentes, ils ont confisqué du matériel, ils ont arrêté des gens, ils ont fait des blessés. C'était aussi barbare que la première fois. Et vraiment, quand on regarde les images sur Internet, ça fait vraiment zone de guerre, quoi. Et j'ai vraiment l'impression que les CRS français ont l'air tendre à côté, quoi. Et là, les gens ont décidé... Éventuellement, il y a un petit campement satellite qui est resté quelques jours, mais ça, c'était dès le début, il y avait une présence policière et c'était un peu la même sorte de compromis qu'il y avait dans les autres Occupy, qui a grandi un peu avant d'être lui-même fermé. Mais on a continué à se rassembler, à faire des manifs. On a décidé, on va investir un autre lieu qui est dans un endroit qui était en train de se faire gentrifier un peu plus loin que le premier. C'est une manif avec des milliers de personnes, peut-être même au moins 10-15 000 personnes. Et y avait du grillage autour du truc, les gens ont démonté le grillage. Il y avait quelques flics qui étaient là, mais qui n'ont rien fait pour nous arrêter. Dans la soirée, ils ont commencé à monter des tentes, monter un truc pour la musique et tout. Il a plu, donc beaucoup de gens sont rentrés chez eux. Et là, à 5 heures du matin, le lendemain, la police est venue, a viré les survivants. Et ça, c'était la fin du Occupy en tant que mouvement d'occupation physique. Et c'est ce qui s'est passé à travers le pays. Je pense pas qu'il reste d'Occupy physique aux États-Unis aujourd'hui. Donc, ils ont été virés à New York, ils ont été virés à Chicago, à Los Angeles, partout, toujours dans des conditions beaucoup moins qu'agréables.
Et donc, précisément, ça a duré combien de temps alors, entre le début de l'occupation et cette dernière expulsion ? C'est de quelle date à quelle date ?
Eh bien, ça a commencé en septembre-octobre 2011, et les derniers Occupy Auckland, when was the last Occupy Auckland shutdown ?
Je sais pas. Janvier, février.
Donc c'est impressionnant, ça a quand même tenu pendant l'hiver. L'hiver.
Ah oui, à New York, ils sont restés sous la neige. Ouais. À Montréal aussi, parce que c'était aussi au Canada, ils sont restés sous la neige. Ouais.
Et il y a. J'ai lu qu'à New York, il y avait eu des occupations d'immeubles suite aux expulsions dans la rue. Est-ce que ça a été la même chose à Auckland ou...
Oui, ce qu'on a fait, c'est que on s'est mis à occuper les jardins de maisons qui allaient se faire expulser par les banques. What was it called? Foreclosure. Donc quand la banque, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais la banque reprend la maison parce que les gens ne sont plus capables de continuer à payer leur dette, leur mortgage. Mais à cette action-là à laquelle je suis passé, en fait, il y avait pas vraiment de communication entre le propriétaire de la maison et les occupants. Donc, on communiquait à travers la police, à travers la ville. On n'a jamais vu le propriétaire de la maison. Et la police nous a dit, ou les représentants de la ville nous ont dit, bah, en fait, le propriétaire ne veut pas vraiment que vous soyez là. Donc, on a le droit de vous arrêter. Et puis, voilà, les gens se sont fait arrêter. Le reste sont partis. Et puis... Mais dans d'autres lieux, je sais qu'ils ont occupé des écoles qui avaient été fermées. Je pense qu'il y a pas mal de propriétés privées dans ce cas-là où le propriétaire était justement d'accord. À Auckland, ils ont fait une manif à un moment pour investir le lieu de la school, right?
In the farm.
Well, there was a school action once, right? And then where they burnt the barrels and then they got kicked out. Je pense qu'il y avait une manif pour occuper une école, mais ça s'est mal passé, les gens n'ont même pas pu rentrer. Donc ouais, ça c'est devenu la phase 2 du mouvement. Ouais.
Et moi j'aurais une question à poser, alors quand même sur ces trucs de répression, comment ça se passe par rapport aux lois américaines et finalement aux formes de répression politique? Est-ce que des gens qui participent à des mouvements comme ça, est-ce qu'ils peuvent être condamnés à des peines de prison, rester un certain temps en prison, ou est-ce qu'ils vont juste... aller quelques jours, une semaine, et puis ils seront libérés. Enfin, est-ce que vous savez comment ça se passe?
Do you know, Ashley?
Oui, je crois que pour la plupart, les personnes étaient en prison pour quelques jours, et puis mais avec des fines,
amendes.
Des amendes.
Ouais.
Mais ça devient de plus en plus difficile de faire de manifester, de contester aux États-Unis avec les lois qui se mettent en place depuis The Patriot Act jusqu'à Obama, qui font que en fait tu peux être fiché comme terroriste juste parce que tu organises des manifs.
Et ça, Obama a pas fait de rupture avec cette logique-là.
Non, il en a fait toujours, il a fait des lois encore plus extrêmes. Tu sais que can you talk about Obama's laws?
Ouais. The Indefinite Defense Act.
L'acte de défense indéterminé, quoi. Indefinite defense or detention?
Detention. De
détention indéterminée.
It's part of the larger laws, the Defense Act, something. Mm. But he passed it after the beginning of Occupy.
Donc Obama a passé une loi après que Occupy ait débuté.
That says if you're thought to be a terrorist, which is very loosely defined, mm-hmm. they can indefinitely detain you without any evidence or even a clear persecution. Essentially, they can just detain.
Donc il dit que aussi la justice te soupçonne d'être terroriste, qui est très vague. Tu peux être détenu indéfiniment sans même avoir without charges even
without sans, charges sans procès ou
sans preuve, sans procès. Ouais. Ben, est-ce que tu connais des gens dont c'est le cas, ou est-ce qu'on a entendu parler de gens dont c'est le cas pour Occupy? Have you heard of people that has happened to in the context of
non.
Occupy?
Non. Mais tout le monde parle de ça parce qu'on ne sait jamais si ça va se passer. Alors, ouais. C'est un chose qui makes us scared. Ouais.
Mais il y a beaucoup de cas, par exemple, pour les manifs de la Convention républicaine nationale au Minnesota en 2008, je crois. La police a fait des trucs pas croyables. Ils sont arrivés dans les maisons des gens encore à 5h du matin et ils ont arrêté les gens qui organisaient la manif et qui organisaient une manif non violente. Que ces gens-là ont passé du temps en prison, quoi.
Alors, j'ai encore envie de poser une question, mais encore sur un autre sujet. Parce que donc, vous dites qu'il y a eu ce mouvement qui est apparu comme ça, un peu plus ou moins brutalement, de manière imprévisible. Et en même temps, tu dis « Ah, mais c'était peut-être quand même un peu préparé, ou les gens étaient préparés ». Et est-ce que il y a un lien, ou est-ce que vous avez encore le souvenir des mouvements, des contre-sommets, en fait, qui ont commencé aussi aux États-Unis en 99. Il y a eu le grand contre-sommet à Seattle, et puis il y en a eu d'autres aux États-Unis. Est-ce qu'il y a encore une mémoire de ça et un lien, parce que par exemple, Indie Media, ça a été créé à ce moment-là, et un lien entre les gens qui étaient dans ces mouvements-là à l'époque et ce qui s'est passé maintenant en 2011?
So she's asking about the link between the G8 and G20 protests and the movement now.
Mm-hmm.
When we have 5 minutes.
Je pense que à peu près toutes les personnes qui ont participé ou auraient participé à un contre-sommet se sont retrouvées à Occupy. Mais Occupy a également rassemblé des personnes qui jusque-là n'étaient pas politisées. Ne faisait pas partie de cette mouvance anticapitaliste ou contestataire, parce que c'est un peu marginal, en fait. Tu sais, je pense que les gens qui vont participer à des contre-sommets, c'est beaucoup plus marginal là-bas de faire des manifs que ici, je pense. Même si c'est un grand groupe de personnes, surtout des jeunes, qui le font. C'est un groupe assez bien défini, d'anarchistes, activistes, tout ça. Alors qu'à Occupy, on a vraiment vu beaucoup de gens, et des gens qu'on n'aurait même pas soupçonné de sortir dans la rue, qui se sont impliqués, quoi.
Il y a eu, dans la brochure dont j'ai parlé tout à l'heure, la personne, Charles Rive, parle aussi de tentatives de blocage du port et d'une solidarité avec les dockers. Je ne sais pas si vous voulez parler un petit peu de ça, ou comment ça s'est passé.
Oui, bah ça justement, je pense que cette action, elle était énorme à Auckland. On a bloqué 2 fois le port d'Auckland. Et ça, c'était, je pense, sans doute l'action la plus efficace qu'on ait fait à Occupy Auckland, parce que on est sorti de la sphère de la manifestation. On exprime qu'on n'est pas d'accord à l'action directe. On va vraiment interrompre le cours des choses, business as usual. Et apparemment, donc la première fois, how many people marched on the port of Auckland the first time? At least 10,000.
Yeah.
Ouais, une dizaine de milliers de personnes sont allées à bloquer physiquement le flux de marchandises dans le port d'Auckland, qui, selon les dires de personnes qui avaient travaillé là avant, ça a coûté des millions de dollars à l'industrie. Et c'est l'industrie, ce sont des banques qui gèrent tout ça. On a fait ça une seconde fois, c'était un peu plus petit, mais les gens ont dormi là-bas, enfin on passait toute la nuit là-bas, faire la fête, tout ça, et c'était fort. Et ça encore, c'était vraiment du jamais vu aux États-Unis, où les gens font même pas grève là-bas. Ou très, très, très rarement. Ouais.
Vous avez quelque chose encore à rajouter, ou vous voyez des choses qu'on n'a pas évoquées?
Oh, tellement.
Ouais, j'imagine.
Est-ce que tu as quelque chose à dire encore?
Je crois, pour moi, dans le moment où je suis là, je suis en France, et quand je suis partie, Occupy était ce calme. Alors, je ne sais pas ce qui se va passer.
Oui.
Et c'était difficile de voir la police gagner un peu.
Oui.
Pour moi, ça sonne comme la police a gagné. Mais je ne sais pas, il y a encore des personnes là qui a General Assembly, mais je ne sais pas.
Oui, l'Assemblée générale continue, même s'il n'y a pas de campement.
Ouais.
Mais c'est devenu, enfin moi j'y suis retourné à ces assemblées générales qui m'avaient l'air un peu symbolique, un peu... Tu vois, un peu triste, c'était genre les vestiges de ce qu'il y avait avant. Il y avait une quinzaine de personnes, alors qu'avant, on était des centaines. Mais je pense que pendant Occupy, on a tous assisté à un soulèvement, une vague vraiment massive, quoi, qui nous a tous qui nous a tous impressionnés, qui nous a tous surpris. Je pense que personne n'avait idée que ça allait se devenir aussi énorme. Et je pense qu'on a tous été inspirés par ça. Moi, par exemple, je crois vraiment en la possibilité d'un mouvement aux États-Unis. Et c'est pas rien. Donc même si maintenant les gens se sont retranchés dans des organisations plus petites et plus ciblées, ce qui est pas forcément plus mal parce qu'il y a plus cette espèce de chaos de bon, qu'est-ce qu'on fait là tous ensemble, comment on se met d'accord sur une direction, mais qui a quand même voilà la perte de cet espace public qui était tellement important. J'ai l'impression que toute cette énergie là elle continue de tourner. Et avec la mémoire collective de ce qu'on a vécu ensemble à Occupy, je pense que si et quand on reprend quelque chose comme ça, on aura appris énormément de leçons par rapport à la première fois et on aura tous beaucoup plus confiance en notre capacité à agir ensemble.
J'espère.
Moi aussi.
Bon, on va s'écouter un petit morceau que tu avais choisi. Tu veux en parler ou on le met et...
Bah, ça s'appelle Not In Our Name. Et je pense que c'est chanté par Sean Williams, qui est un poète slam américain. Et Not In Our Name, ça veut dire pas en notre nom. On n'est pas d'accord.
We believe that as a people living in the United States, it is our responsibility to resist the injustices done by our government in our names. Not in our name will you wage endless war. There can be no more deaths, no more transfusions of blood for oil. Not in our name will you invade countries, bomb civilians, kill more children, letting history take its course over the graves of the nameless. Not in our names will you erode the very freedoms you have claimed to fight for. Not by our hands will we supply weapons and funding for the annihilation of families on foreign soil. Not by our mouths will we let fear silence us. Not by our hearts will we allow whole peoples or countries to be deemed evil. Not by our will and not in our name. We pledge resistance. We pledge alliance with those who have undergone attack for voicing opposition to the war or for their religion or ethnicity. We pledge to make common cause with the people of the world to bring about justice, freedom, and peace. Another world is possible, and we pledge to make it real.
Ça, c'était un morceau issu d'une compilation de chants de la guerre d'Espagne. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on vient d'écouter. Je suis un peu perturbée parce qu'il y a un téléphone qui sonne.
Qui sait qui a laissé son téléphone allumé ?
Oui, c'est mal. Et donc, on va pas passer l'interview sur la Fabrique du Futur, malheureusement.
Encore
ça
une
fait
fois.
Au moins 2 mois.
Il y a des auditeurs qui n'attendent que ça depuis 2 mois.
Mais parce qu'on n'a pas le temps. Hein, et si on la passe maintenant, oui, on devra la couper. Donc on va parler de Fukushima à la place.
Voilà. Tant pis. On va en parler un petit peu. On n'a pas beaucoup d'infos, en fait. Hein. C'est difficile à parler de ce qui se passe là-bas parce que TEPCO, donc, qui gère la centrale de Fukushima, ne communique très peu sur les accidents et où en est la catastrophe. Mais le peu qu'ils ont pu communiquer est assez inquiétant. Il y a un diplomate japonais qui, dans une interview, a déclaré que la catastrophe qui est en cours dans la centrale de Fukushima pourrait finalement se transformer en un événement capable de mettre en péril toute vie sur Terre. Pour quelle raison il a expliqué ça ? C'est parce qu'on a il y a des fuites en fait dans les piscines de refroidissement des combustibles nucléaires. Des fuites qui ont été dues en fait au moment où il y a eu le tsunami. Le refroidissement ne plus marcher, donc c'est des immenses piscines où le combustible nucléaire est refroidi. Il faut perpétuellement qu'il soit alimenté en eau. Il a pu été pendant une journée entière, ce qui a fait que le combustible a été c'est des suppositions, mais a priori il aurait été même en contact avec l'air, donc il diffusait une grande radioactivité autour de lui et a permis son échauffement, ce qui fait que ça s'est transformé en espèce de boules de métal complètement brûlantes qui auraient percé donc ces piscines. Ça, c'est ce que l'opérateur TEPCO a annoncé au mois de mai, que la déclaration disait quelque chose comme apparemment une des cuves serait éventuellement percée dans un des réacteurs, sachant que du coup sans certitude il nous annonce ça, et ça c'est une nouvelle assez alarmante, puisqu'il y a quand même, dans par exemple la piscine, là en ce qui concerne, ça concerne 3 piscines, mais rien qu'en ce qui concerne la 4, qui apparemment concentre beaucoup d'inquiétudes, il y a 264 tonnes de déchets radioactifs, hautement toxiques, 10 fois plus il y a 10 fois plus de doses de césium-137 que la quantité qui a été lâchée à Tchernobyl. Et donc là, on nous annonce que ce combustible est peut-être passé à travers la piscine et que du coup, il serait déjà sous la centrale et peut-être même dans la mer ou dans les eaux. Enfin, on n'en sait pas grand-chose en fait, puisque, encore une fois, c'est le flou le plus complet. Il y a quand même un sénateur américain qui est venu visiter la centrale le 6 avril dernier et qui a dit, après ça, il faudrait vraiment qui a appelé à une intervention du gouvernement des États-Unis. Visiblement, ça l'a sacrément inquiété, ce qui se passe là-bas. Le 16 avril, d'ailleurs, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais le 16 avril, il y avait déjà 11 500 tonnes d'eau hautement radioactive qui avaient été rejetées à la mer, parce qu'en fait, ils injectent 7 tonnes d'eau à l'heure dans ces piscines donc, qui contiennent du combustible radioactif. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas tout à fait les moyens de récupérer toute l'eau qui est injectée. Donc, bon, voilà. TEPCO s'est dit désolé d'avoir jeté 11 500 tonnes d'eau radioactive, ce qui donne une pollution très forte, même dans toutes les parties des côtes japonaises et notamment dans la baie de Tokyo. Donc voilà, l'inquiétant, c'est vraiment sur cet aspect-là. Ils appellent ça le corium, donc ce combustible qui a fondu et qui vraiment, tel qu'on peut voir les images, c'est des piscines qui sont à l'air libre, que il ne reste plus qu'une ruine de cette centrale. Et la seule solution pour l'instant, c'est d'injecter de l'eau donc, et ainsi de suite. Il y a Roland Desbordes qui a fait une déclaration suite un peu à ces mêmes déclarations de TEPCO sur le problème de refroidissement. Il disait « Si le refroidissement des réacteurs nucléaires échoue, leur cœur pourrait fondre. Les pastilles d'uranium s'accumuleraient alors au fond de la cuve, formant un corium, sorte de grosse boule de métal en fusion. » Ce corium pourrait alors transpercer la cuve, puis la dalle de béton, en dessous de la centrale, et enfin la roche et la terre, avec des conséquences sur les nappes phréatiques et les sols en général. Ça, c'est ce qu'ils supposent, selon les déclarations de TEPCO, mais il y a des gens qui disent que c'est peut-être déjà en train de se faire. On a relevé apparemment des taux Alors, est-ce que je vais le retrouver? Il y a des taux je sais plus de quel composant radioactif, je crois que c'est le l'iode du césium 137, je crois que c'est plutôt, qui a été retrouvé aux États-Unis dans des pluies et dans du lait aussi. Donc ça pourrait aussi, enfin ça pourrait faire penser que ce combustible s'est déjà échappé. Donc on est juste à la base d'une catastrophe planétaire un peu jamais produite, puisque si jamais ce corium se déballait dans la mer, évidemment, les courants marins l'amèneraient un peu partout sur Terre. Et ce qui risque aussi de se passer, c'est qu'il devienne complètement incontrôlable et qu'il y ait une explosion d'hydrogène. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'aucune personne ne pourra s'approcher près de cette centrale sans être complètement irradiée. Et ça veut dire que là, c'est un peu sauf qui peut, quoi. Donc voilà, il y a peu d'informations dessus. C'est difficile de trouver des choses sur ce qui se passe en ce moment à Fukushima. Mais de toute façon, les seules informations sont un peu des extrapolations de ce que peut annoncer TEPCO. Et TEPCO a jusqu'à présent beaucoup menti sur les doses de radiation qui émanent un peu partout de la centrale. Notamment, bah, il y a aussi, ils ont quand même, ça je ne sais pas si c'est eux qui ont dit ça, mais il y a des traces de plutonium qui ont été trouvées près de la centrale nucléaire, et le plutonium c'est radioactif pour des milliers d'années, donc ça rend difficilement habitable les zones proches de la centrale nucléaire pour quelque temps, et même une partie du Japon si ça continue comme ça, et même bien au-delà, quoi. Donc voilà, il y a des sites internet qui sont contre nucléaire. On peut trouver éventuellement des choses sur le site anti-nucléaire, je crois, d'Avignon. Il y a un article qui est assez intéressant. Sur justement ce que je viens d'expliquer. Et après, voilà, il y a beaucoup de scientifiques indépendants qui sont extrêmement inquiets et qui aimeraient bien en savoir un peu plus, mais voilà, malheureusement, là, il y a une omerta totale sur ce qui se passe, et c'est assez flippant, quoi. Voilà, peut-être la suite au prochain numéro, si nous sommes encore vivants pour en parler. Est-ce qu'on s'écoute un morceau?
Adieu mégaphone, adieu calico, adieu représentant syndicaux. À moi le soleil et le calypso, la nana, la noix de coco. À moi les alizés, les vents. Adieu jogging, les briefings à l'heure, Breitling, ouvrier, riez. Adieu les blouses grises en Chine, l'usine, on délocalise les coûts. On dégringole les banques, on peut rigoler, la boîte à coller, mes pouces, on va se la Mégaphone, adieu calico, adieu représentants syndicaux. À moi le soleil et le calypso, la nana, la noix de coco. Adieu château Pétrus, encore stall en vin. Adieu les jolis. Machine-outil, riez, ouvriez du joli gâchis. J'ai creusé, creusé, j'ai creusé la dette. Au lieu de me creuser la tête, un jour, les cours ont chuté et moi, parachuté. La boîte a coulé, mes pouces, on va se la l'adorer, j'ai le parachute.
vieux mégaphone. Adieu Calico, adieu représentants syndicaux. À moi le soleil et le calypso, la nana la noix de coco. Adieu téléphone, adieu le bureau, secrétaire au talon haut. À moi, les alizés, les vents tropicaux. Et moi, bien frisé, sur le bateau, la boîte a coulé.
Voilà, merci Alain Souchon.
Alors moi j'avais quand même un petit message d'alerte parce que bon, le nucléaire c'est pas encore là, mais par contre il y a déjà des trains qui transportent du Roundup et qui en diffusent près des voies ferrées. L'autre jour j'ai eu la malheureuse aventure de me retrouver près d'une voie ferrée alors qu'un train passait, qu'un monsieur derrière avec un truc pour diffuser, là je sais pas, un diffuseur, enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle, bref, diffuser du Roundup près des voies ferrées, donc méfiez-vous des voies ferrées dans le Diwa et ailleurs, ça peut être dangereux.
Ouais, c'est pas... En même temps, je pense que c'est pas le pire des voies ferrées, hein, parce que maintenant il y en a beaucoup moins. Vous êtes les traverses de chemin de fer en bois, mais les traverses de chemin de fer en bois marron foncé, là, c'est traité avec un produit qui s'appelle le créosote et qui est particulièrement vraiment très 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 toxique. Okay. Et qui s'infiltre après dans les sols et tout ça. Et... Enfin, je pense que le Roundup n'est pas la pire nuisance.
Mais c'est pas génial non plus.
Des chemins de fer, voilà.
C'est très évité.
Bon, et ben, on arrive à la fin de cette émission, c'est ça ?
Bah oui, on va dire que c'est la fin. C'est pas tout à fait la fin normalement, mais bon. On va se prendre une pause avant. Enfin, on va sécher.
On va sécher les 10 dernières minutes. Vous voyez, ouais, comme on est. Bon, mais en tout cas, on est vraiment très contente de vous avoir accueilli ici, Jérémy, ouais. Ashley. C'était très très chouette, ouais, que vous soyez venu parler.
Merci à vous.
Ouais, merci
de cette expérience, de ce mouvement Occupy. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? On peut vous laisser vaguement espérer l'interview sur la Fabrique du futur la semaine prochaine.
Ouais, parce qu'il y a des gens qui reviennent exprès pour ça. Du coup, c'est bien. Ça les fait tenir en alerte. C'est un espèce d'épisode.
Ouais, mais... voilà. Ouais, c'est le rebondissement. Ouais. Mais après, il faudra trouver autre chose.
Ouais, voilà. Ouais. On va voir.
Bon, bah, écoutez, en tout cas, on vous souhaite une bonne soirée. Ouais,
bonne soirée.
Salut. Et puis, à bientôt.
Ciao.
At your front door, how are you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun when the law break in? How are you gonna go shot down on the pavement or waiting on death? You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. Oh, the guns of Brixton. Money feels good, and your life you like it well, but surely your time will come. As in heaven, as in hell, you see, he feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving. At the end of the harder they come, you know, it means no mercy. They caught him with a gun. Black Maria, goodbye to the Brixton sun. You can crush us, you can bruise us, yeah, even shoot us. But oh, the guns of Brixton. When they kick at your front door,
broken bruises, yeah, even sugar.